Agnès Soubiron, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les légendaires surnoms donnés hier soir aux joueuses de l'Olympique Lyonnais, sacrées pour la 7e fois reine d'Europe, un 7e titre en Ligue des Championnes aux dépens des Allemandes de Wolfsburg. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Un retour en classe pour les enseignants ce matin, après parfois 6 mois loin des élèves. Et si les masques chirurgicaux se lavaient à la machine, un haut gradé français espion de Moscou, et enfin quand une bande dessinée remet en lumière un scandale d'État.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
On ne sait pas bien encore quelle est sa mission réelle au gouvernement, à part s'occuper de la citoyenneté, terme assez flou. Elle doit présenter un texte contre les séparatismes à l'automne, elle nous en dira plus. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure Léa, 8h20, on se retrouve Léa pour le grand entretien de la matinale avec la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard d'Inter vous attend.
France Inter. Un incroyable palmarès. 7 étoiles désormais sur le maillot de l'OL. 7 coupes d'Europe décrochées par les Lyonnaises. La 5e d'affilée hier soir et à chaque fois le même bonheur de gagner. Les joueuses de Lyon ont donc dominé les Allemandes de Wolfsburg 3-1. En finale de la Ligue des Champions, un premier but libérateur d'Eugénie Le Sommer à la 25e minute. Et la partition s'est jouée ensuite sans fausse note. Récit d'une soirée historique avec Alexandre Faux.
Inlassablement chacune leur tour, les Lyonnaises et leur staff brandissent leur trophée dans un stade vide à cause du Covid, leur cri de joie résonnant dans la nuit espagnole, dont ceux d'Eugénie Le Sommer, auteur du premier but hier.
C'est que du bonheur, on nous dit souvent vous en avez pas marre de gagner, non on en a pas marre, regardez notre joie, il n'y a pas de lassitude, on a toujours envie de gagner et même si c'est la 7e, la 5e de suite, la joie peut-être qu'elle est différente mais elle est toujours là et il y a toujours une saveur particulière quand on gagne la Ligue des Champions.
Sans la meilleure joueuse du monde à deux Gerberg et sa capitaine Amandine Henry. Lyon a mérité son trophée au terme d'un match maîtrisé, selon son entraîneur Jean-Luc Vasseur, qui a tout gagné pour sa première saison sur le banc lyonnais.
Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais féminin est au même niveau que le Real de Madrid homme des années 50-60.
Avec 5 victoires consécutives en Ligue des Champions, les Lyonnaises n'écrivent plus seulement l'histoire du foot féminin, mais l'histoire du foot tout court. Et ce n'est pas fini, promet Delphine Cascarino.
C'est l'objectif de l'Olympique lyonnais, c'est de marquer l'histoire et je sais qu'on peut le faire.
Après les Galactiques, les Lyonnes, les expertes, les joueuses du président de l'OL, Jean-Michel Aulas, ont été rebaptisées hier soir les légendaires.
Alexandre Vaux, envoyé spécial de France Inter en Espagne. Légende s'écrit bien au féminin, a tweeté hier soir Emmanuel Macron pour des Lyonnaises indétrônables reines d'Europe et sauveuses du foot français.
Il est 7h03, Agnès, la rentrée ce matin pour 866 500 enseignants.
Et pour les élèves, ce sera à partir de demain, mais aujourd'hui, donc, ce sont les professeurs qui se retrouvent. Certains ne se sont pas vus depuis presque 6 mois. Une rentrée en présentiel, comme on dit donc, avec des règles sanitaires très strictes, port du masque obligatoire pour tous. Le but, éviter un nouveau confinement, car l'enseignement à distance a été une épreuve pour bon nombre d'enseignants. Sonia Princé.
Ne reparlez surtout pas d'enseignement à distance aux professeurs, même s'ils se sont investis, comme Françoise, enseignante en lycée. Ils ont souffert de perdre le lien avec une partie de leurs élèves.
Il y a même une classe de BTS qui a totalement disparu dans la nature. Tous les élèves, c'était des grands, c'était eux-mêmes concertés pour ne répondre à aucune sollicitation d'aucun professeur. L'élève qui ne participe pas dans une classe, on le voit, il est là, on va vers lui. Donc j'espère vraiment que cette année, on pourra avoir un enseignement normal.
Les professeurs ont très vite perçu les limites de l'enseignement à distance, comme l'explique Romain Delès, sociologue à l'Université de Bordeaux et qui a mené une étude sur le sujet.
Nous, on a par exemple analysé des séquences pédagogiques qui étaient mises en ligne par les enseignants pendant le confinement sur des plateformes numériques. C'est beaucoup plus difficile de faire comprendre la logique d'un cours. Dans la classe, l'enseignant, c'est son travail, il réajuste, il explicite aussi la logique de progression du cours. Il va bien montrer quel est le lien avec ce qui a été vu précédemment. Or, dans les outils numériques, ce lien-là, c'est finalement à l'élève de le reconstruire. et tous les élèves n'en sont pas capables.
Françoise reconnaît que la plupart des élèves ont fait des efforts, qu'il y a eu aussi des choses positives, mais elle ne veut surtout pas recommencer.
À noter que le port du masque ne sera pas obligatoire pour les adultes dans les crèches et chez les assistantes maternelles, annonce hier soir du ministère de la Santé. Autre annonce hier, le nombre de tests pratiqués la semaine dernière a franchi la barre des 900 000 et le gouvernement souhaite atteindre au plus vite le million de tests hebdomadaires. Des barnums vont notamment être installés devant plusieurs mairies d'arrondissement à Paris. Plus de 5400 nouveaux cas recensés au cours des dernières 24 heures. 4 malades sont morts, ce qui porte le bilan global en France depuis le début de l'épidémie à 30 606 décès. Porter le masque doit donc devenir un réflexe. Dans certaines villes, c'est obligatoire, comme à Paris et Marseille, dans les collèges et les lycées. Dans les entreprises aussi, on connaîtra aujourd'hui le protocole précis. Se pose donc la question du coût et du recyclage. Un consortium qui rassemble des médecins, des industriels ou des scientifiques du CNRS a mené des expériences en laboratoire pour recycler les masques chirurgicaux et FFP2. Et les premiers résultats sont plutôt prometteurs. Ces masques à usage unique pourraient en fait être lavés et réutilisés. C'est ce qu'explique Philippe Cinquin, professeur de santé publique à l'université et au CHU de Grenoble.
Les masques chirurgicaux présentent en effet l'intérêt de pouvoir être lavés avec des détergents, donc en machine. On a pu montrer que ça pouvait être lavé même jusqu'à 90 degrés. Disons que à 60 degrés, c'est tout à fait suffisant. La grosse difficulté qu'on a, en réalité, elle est de nature réglementaire. Ce sont des dispositifs à usage unique. Or, il y a un décret en France qui interdit la réutilisation de dispositifs à usage unique. La possibilité de traiter des masques, qu'ils soient en tissu ou qu'ils soient des masques chirurgicaux, pour pouvoir les réutiliser, c'est une piste intéressante pour permettre de diminuer l'impact financier et l'impact écologique aussi, hein, parce que quand on parle des masques chirurgicaux, il s'agit de masques qui sont en plastique, hein, donc ça a un impact environnemental qui est loin d'être négligeable.
Propos recueillis par Yann Gallic. De très grosses perturbations sur la ligne SNCF entre Hendaye et Bordeaux en raison de problèmes d'alimentation électrique. Résultat hier, une dizaine de TGV bloqués, des milliers de passagers coincés. Un train est arrivé à Paris avec presque 20 heures de retard et le trafic devrait rester perturbé jusqu'à la mi-journée. Transport toujours avec la fin des Autolib version Bolloré. Après Paris, l'industriel arrête définitivement aujourd'hui le service de ces Blue Car à Lyon et Bordeaux. Delphine Simon.
C'est fin juillet que la lettre a été envoyée aux abonnés de Bluely et Bluecube. Les services d'autopartage s'arrêtent ce lundi à Lyon et Bordeaux. La fin d'Autolib à Paris a plombé la rentabilité du système. Impossible de faire des économies d'échelle. À Bordeaux, les 147 Blue Car peinent à attirer 5300 abonnés. Le Covid a donné le coup de grâce, explique un porte-parole du groupe. L'arrêt total du parc pendant 3 mois pousse à arrêter les frais dès cet été. Pour l'instant, Bolloré maintient le service à Turin, Singapour et Los Angeles, mais le modèle économique n'est rentable nulle part. Une réflexion est en cours selon un proche du groupe. Quant aux voitures électriques développées par Bolloré avec ses propres batteries, elles n'ont pas convaincu les particuliers en dehors des services d'autopartage. Voilà qui semble signer la fin de l'aventure Bolloré dans le secteur automobile.
Les ambitions de Veolia, le géant français de l'eau et du traitement des déchets, propose à Engie de lui racheter l'essentiel de sa participation dans Suez, soit 29,9% de Suez au prix estimé de 3 milliards d'euros. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Et puis cette initiative de 20 chefs de grandes entreprises françaises pour développer l'apprentissage. Les patrons de Total, du groupe Korian ou de la SNCF ou encore de BNP Paribas s'engagent pour ne pas laisser sur le carreau les 700 000 jeunes qui entrent sur le marché du travail. Un site internet est créé pour mettre patrons et candidats en relation et une tribune est publiée dans Les Échos et sur France Info.
Il est 7h09, retour sur cette affaire, Agnès, affaire d'espionnage au sein de l'OTAN.
Un officier français travaillant pour l'OTAN et basé en Italie est soupçonné d'avoir livré des documents ultra sensibles à la Russie. Il a été écroué il y a une dizaine de jours à Paris. Cet homme âgé d'une cinquantaine d'années qui parle russe est notamment mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Les affaires de ce genre révélées au grand public sont rares. Bertrand Galichet, mais l'espionnage est une activité permanente.
L'espionnage militaire n'a pas vraiment changé depuis la fin de la guerre froide et la Russie a des raisons particulières de s'intéresser au commandement de l'OTAN en Italie. C'est ce qu'observe le journaliste Jean-Marc Tanguy, spécialiste des questions de défense.
Les services de renseignement sont là pour renseigner. Il faut en fait avoir des capteurs qui sont placés aux bons endroits. Ça peut être en haut d'une pyramide militaire, ça peut être aussi aux échelons intermédiaires. On n'est pas du tout surpris que la Russie, qui se sent régulièrement menacée par l'OTAN, cherche à avoir des renseignements. Et dans un état-major de ce type-là, on manie toutes sortes de renseignements sur une zone qui est en général plutôt celle du flanc sud de l'OTAN, notamment la Méditerranée. La Russie est très implantée en Syrie avec des moyens militaires importants. Elle regarde évidemment depuis plusieurs années les rapports qui se délitent entre l'OTAN et la Turquie.
Une affaire particulièrement embarrassante pour Paris, quelle que soit l'importance des informations divulguées aux Russes, déjà stigmatisées pour avoir mis en cause le fonctionnement de l'OTAN, considérée en état de mort cérébrale par Emmanuel Macron, la France risque de perdre en crédibilité vis-à-vis de ses partenaires au moment où l'Alliance Atlantique traverse une crise existentielle.
Le premier geste du président libanais, Michel Aoun, a reconnu hier la nécessité de changer le système politique et appelé à proclamer un État laïque. Un nouveau premier ministre devrait d'ailleurs être nommé dans les heures qui viennent. Il s'agit de l'actuel ambassadeur du Liban en Allemagne. Emmanuel Macron est attendu ce soir à Beyrouth, un mois après l'explosion dans le port de la ville. Reportage à Beyrouth dans le journal de 7h30. Il a filé tout droit vers la victoire. Le Français Julien Alaphilippe a remporté hier la deuxième étape du Tour de France à Nice et s'est emparé du maillot jaune. Ce sera le fait du jour dans le journal de 8h. Troisième étape du Tour de France aujourd'hui, 198 km entre Nice et Sisteron. Et puis c'est un scandale oublié. Il y a 100 ans aux États-Unis, de jeunes femmes ont été exposées au radium dans des usines où elles peignaient les heures des cadrans de montres avec une peinture à base de radium. Les spécialistes étaient au courant du danger qu'elles couraient, mais se sont tues. Une bédier, Radium Girls, raconte leur histoire. Jacqueline Petros.
Elles étaient gaies, insouciantes. Dans cet après-première guerre, le nouveau produit miracle, c'est le radium. Il est partout. Dans des crèmes de beauté et même la laine pour bébé. À l'usine d'horlogerie, les filles s'amusent à en mettre sur les ongles ou les dents pour briller dans la nuit. Mais quand se précisent les conséquences mortelles du produit, le silence se fait en haut lieu. Si nous entraîne dans la vie de 6 de ces jeunes victimes.
J'avais envie qu'on soit la 7e. J'avais envie qu'on soit au cœur de ce groupe et ce qui m'intéresse, c'est que ces femmes sont lumineuses, sans mauvais jeu de mots. Ces femmes vont vivre leur meilleure vie et la pire. Ça veut dire qu'il va y avoir une bascule à un moment. J'avais envie de m'intéresser à ces jeunes femmes qui ont un meilleur salaire que les femmes de leur époque et qui sont dans la fleur de l'âge et qui vont se faire couper les ailes. J'ai été outrée, écœurée de découvrir ce qui leur arrivait. Tout ce que je voulais, c'était réussir à reproduire la même chose aux lecteurs ou aux lectrices.
Les jeunes femmes se retourneront contre leur employeur. Aujourd'hui, les lois de protection des salariés aux États-Unis découlent de leur combat. Les dessins de scie, travaillés au crayon de couleur aquarellable, ont un grain particulier et de très belles irisations. On s'attache à ces femmes et on s'indigne de ce qu'elles ont vécu.
Radium Girls de la dessinatrice Si aux éditions Glénat.
Merci Agnès Soubiran.